affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Le 16 mai 1735, dans le port de La Rochelle, une expédition scientifique s'embarque pour le Pérou. Objectif, se rapprocher de l'équateur pour mesurer l'angle d'un méridien et trancher enfin la querelle sur la forme de la Terre. Parmi eux, un jeune savant des Lumières, Charles-Marie de la Condamine. Cet homme va passer 10 ans en Amérique du Sud, d'abord dans la cordillère des Andes, avec ses confrères de l'Académie royale des sciences, et puis il va descendre l'Amazone en solitaire. À son retour, il raconte ses 2 voyages à un public friand de découvertes. Ses textes viennent de faire l'objet d'une nouvelle édition aux belles lettres, grâce au travail d'un jeune chercheur, Mathias Soubise. Nous sommes heureux de le recevoir aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors Mathias Soubise, vous êtes doctorant à l'université de Neuchâtel et à l'école normale de Lyon. Vous travaillez sur les représentations des Amériques au XVIIIe siècle. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter ce personnage de la Condamine, cet homme qui, à 34 ans, commence ce grand voyage en Amérique? Il est jeune, mais il est déjà membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie française. C'est un esprit brillant.
Alors, il n'est pas encore membre de l'Académie française. Il devient membre de l'Académie française à son retour. Mais oui, il est déjà membre de l'Académie des sciences puisqu'il est élu pensionnaire à 29 ans. Et il est d'abord académicien pour travailler sur des questions de mathématiques et de physique. Et c'est quelques années plus tard qu'il se met à s'intéresser à la question de la figure de la Terre, parce que dans les années 1730, à l'intérieur de l'Académie des sciences, ce débat ressurgit grâce à l'initiative de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, son collègue, qui s'intéresse de près aux théories de Newton et plus globalement à la question de la figure de la Terre, qui retrouve un intérêt assez fort en cette époque, puisque on relance des débats, notamment entre les Cassini et une sorte de nouvelle garde scientifique, qui va progressivement défendre les théories de Newton.
Parce que la figure de la Terre, qu'est-ce que ça veut dire, s'intéresser à la figure de la Terre? C'est quelle est la forme de la Terre?
Oui, alors on sait que la Terre est de forme circulaire, est un globe, mais on sait aussi que c'est un globe qui n'est pas parfait. C'est-à-dire que, pour schématiser, vous avez d'une part des cartésiens, en tout cas des néo-cartésiens, ou en tout cas une sorte de physique héritée de celle de Descartes, qui pensent plutôt que la Terre a une forme d'un citron, en gros qu'elle serait allongée au pôle. En face, vous avez le camp newtonien qui défend l'inverse, qui défend que la Terre a une forme plutôt de mandarine, c'est-à-dire qu'elle est aplatie au pôle. Et en fait, ça a des conséquences concrètes, notamment pour la cartographie, pour la navigation, et donc avec tous les enjeux économiques qu'on peut en tirer.
Et donc, c'est l'objet de cette expédition au Pérou. Les scientifiques qui s'y rendent doivent effectuer des mesures sur place, sur le terrain, pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses.
C'est ça, parce qu'en fait, quand je vous parle de Descartes, quand je vous parle de Newton, on parle de conceptions abstraites, de calculs mathématiques. Et pour la mesure, pour la détermination de la forme de la Terre, il faut faire des mesures géodésiques. La géodésie, c'est la science de la définition de la forme de la Terre. Donc, vous avez cette conception abstraite et cette expérimentation concrète, cette prise de mesures concrètes qui s'opposent. Et en France, on prend certaines mesures de géodésie, mais on se rend compte qu'en fait, que la situation de la France par rapport au globe terrestre n'est pas suffisante pour avoir des résultats fiables. C'est pour ça qu'il faut envoyer une expédition en Laponie, donc c'est-à-dire au plus proche du pôle Nord, qui sera dirigée par Maupertuis, et une expédition au plus près de l'équateur, pour en fait avoir des distances, être sur deux points du globe les plus opposés et ainsi avoir une vision de l'ensemble du globe beaucoup plus fiable.
C'est une époque où on souhaite tout mesurer, connaître à la fois la France, mesurer la France et le monde entier.
Oui, c'est une. Alors, à partir du XVIe siècle, ça prend son apogée au XVIIIe siècle. On a une augmentation quasi exponentielle de voyages commerciaux et voyages scientifiques à peu près partout, enfin surtout en Amérique du Nord, du Sud et en Asie, qui sont possibles parce qu'il y a une implantation européenne sur ces territoires et qui servent aussi notamment à la mise en place de plusieurs expériences scientifiques ou de plusieurs mesures scientifiques pour la géodésie, par exemple, comme on vient d'en parler, mais aussi, par exemple, pour la mesure des températures, pour faire le test de thermomètres ou d'instruments scientifiques. Et ça se formalise pendant toutes les Lumières, pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu'à en fait, la création du Muséum d'histoire naturelle, où là, on met en place quasiment des manuels d'exploration scientifique et on forme des scientifiques à aller explorer, en gros, les parties colonisées par l'Europe, les parties du monde colonisées par l'Europe.
Alors, cette expédition compte plusieurs membres. Il y a des académiciens, il y a des dessinateurs, il y a un chirurgien, il y a un horloger qui, lui, a la charge de s'occuper des instruments, ces outils qui sont extrêmement importants.
Oui, alors les outils sont extrêmement importants et deviennent quasiment des personnages du récit, puisqu'ils sont, ça coûte très cher. Ce sont des instruments qui sont rares, parce qu'il faut ça prend du temps de les fabriquer. Il faut les faire venir d'Europe, puisqu'on ne les construit pas en Amérique du Sud. Et donc, ces instruments, on en prend un très grand soin, mais ils s'abîment, ils se cassent, ils sont défectueux. Et donc ça rythme un peu le récit de voyage. Et oui, c'est une expédition qui est composite, avec une sorte de trio de têtes composé d'académiciens. Joseph de Jussieu, qui fait partie de la grande famille des botanistes, et d'autres ingénieurs, horlogers, dessinateurs qui viennent soutenir le travail des académiciens.
Et cette équipe ne s'entend finalement pas très bien. On sent qu'il y a de nombreuses dissensions. Il y a une mission générale qui est confiée, qui est financée même par l'Académie des sciences, et puis des intérêts particuliers qui créent des tiraillements.
Oui, alors il y a des oppositions qui sont scientifiques. Ils arrivent en Amérique du Sud et le protocole, si on peut dire, le protocole d'exploration ou le protocole de mesure n'est pas entièrement fixé. Et il y a l'idéal d'exploration qu'ils ont en tête en arrivant et il y a les réalités concrètes du terrain qui obligent à refaçonner les objectifs de l'expédition. Le chef initial de l'expédition, c'est Louis Godin, parce qu'il est sans doute le plus vieux, et c'est celui qui propose en fait, à l'Académie des sciences cette exploration. Et puisqu'il est chef, il a aussi en charge l'argent donné par l'Académie des sciences, et donc la trésorerie de l'expédition. Avec cette charge de trésorier, s'ajoutent des conflits économiques entre les différents membres de l'expédition, plus des conflits intellectuels, qui fait que la compagnie des académiciens se désagrège au fur et à mesure de l'expédition. Il rentre en France en ordre dispersé. Louis Godin ne rentrera jamais en France, puisqu'il se fait engager par l'université de Lima et par le vice-royaume du Pérou. Et il meurt à Cadix dans les années 1750. Bouguer, lui, rentre en premier. Bouguer, qui est le deuxième membre de l'Académie envoyé dans cette expédition. Et la Condamine rentrera un an après lui.
Alors, sur le terrain, que font-ils ? Peut-être que je vais lire un passage du livre qui décrit en fait leur activité telle qu'elle est observée par la population locale, par de jeunes métis, dit la Condamine. Ce devait être pour eux un mystère impénétrable qu'un observateur à genoux, au pied d'un quart de cercle, la tête renversée dans une attitude gênante, tenant d'une main un verre enfumé, maniant de l'autre les vis du pied de l'instrument, portant alternativement son œil à la lunette et à la division pour examiner le fil à plomb, courant de temps en temps regarder la minute et la seconde à une pendule, écrivant quelques chiffres sur un papier et reprenant sa première situation.
Alors, là, ce que la Condamine décrit, c'est une représentation de métis, d'observation astronomique. Puisqu'il y a deux étapes dans l'expédition au Pérou. C'est d'abord la prise de mesure dans les montagnes. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont des opérations de triangulation. En fait, on crée une suite de triangles et avec la détermination des angles de ces triangles, on peut déterminer une ligne droite qui permet de déterminer donc un angle de méridien. Ça, c'est pour la partie la plus difficile de l'expédition, puisqu'elle l'oblige à monter sur des pics de la cordillère des Andes, des pics enneigés avec toute une série d'événements climatiques périlleux.
Et des repères qui parfois disparaissent. Voilà, de ces témoins qui font les angles du triangle, qui peuvent soit s'envoler, soit être volés.
Voilà, parce qu'il faut placer des signaux sur les pics pour pouvoir les observer de loin et donc déterminer les distances. Et oui, les signaux s'envolent, sont volés ou alors sont inobservables à cause de la neige ou du brouillard. Donc ça, c'est pour la première partie de l'expédition. Et la deuxième partie de l'expédition, ce sont des calculs d'observation astronomique pour compléter les observations terrestres, notamment déterminer la situation du Soleil, par exemple. Et donc ça se fait à Tarki, donc qui est dans une zone plus basse de l'actuel Équateur. Et ces observations sont aussi conditionnées au bon fonctionnement des lunettes astronomiques et des conditions climatiques. Et pendant cette expédition, les académiciens assistent à une fête indigènes qui sont composés de courses de chevaux et qui sont scandés par des jeux de pantomime. Et les académiciens se voient imités par ces métisses qui imitent quasiment à la perfection les contorsions du corps et les gestes scientifiques des académiciens.
Il y a, vous le dites, hein, chez la Condamine, mais comme chez ses semblables au XVIIIe siècle, une mise en scène de la construction, de la fabrication du savoir qui passe presque par une chorégraphie.
Oui, parce que alors le corps de l'académicien est le plus souvent absent de ces récits de voyage, sans doute par humilité ou par rejet un peu de l'exhibition. Du coup, quand il apparaît, c'est toujours très, très significatif, parce que ça permet de se mettre en scène et surtout de mettre en scène la dureté du voyage. En fait, on ne parle du corps que quand il souffre. Il souffre à cause des conditions climatiques, à cause des maladies, à cause des difficultés des opérations scientifiques. Et la Condamine cherche à se construire l'image d'un savant, c'est-à-dire d'un esprit vaillant, un esprit fin, systématiquement aux prises avec un espace hostile, qui permet en fait un peu de rehausser la valeur aussi de vérité et la valeur scientifique de cette expédition. Puisqu'on a une époque où la science est partagée, enfin, la science passe systématiquement par l'écrit et passe par des publications. Et que ce soit dans la physique expérimentale ou dans le récit d'une observation, il faut user d'une forme de rhétorique de l'impression pour faire croire et pour accréditer la valeur de vérité de cette démarche scientifique. Et c'est tout à fait le cas dans ce récit de voyage, qui joue toujours un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois la rigueur scientifique qui est de mise, et en même temps le plaisir aussi qu'on peut en tirer, et le plaisir qu'on peut tirer d'une aventure personnelle.
Alors finalement, cette mission au Pérou se désagrège, mais est-ce qu'elle parvient à remplir son objectif? D'ailleurs, ils ne sont peut-être pas tous d'accord sur l'objectif de cette mission.
Alors oui, en gros, l'objectif de cette mission est rempli, même si en fait il avait déjà été rempli par l'expédition Lapone menée par Maupertuis, qui elle part un an après, en 1736, mais qui revient beaucoup plus tôt. C'est une expédition qui ne dure qu'un an, qui est beaucoup plus efficace, pas forcément plus facile, mais beaucoup plus efficace, et aussi parce que beaucoup plus proche de Paris. Donc Maupertuis rentre dès 1737 avec des résultats de mesure. Il rentre triomphant à l'Académie des sciences pour déclarer que la Terre est un globe aplati au pôle.
Donc la conclusion est là.
La conclusion est déjà là quand les académiciens du Pérou rentrent dans les années 1744 ou 45. Mais grosso modo, les résultats de mesure sont les mêmes. La seule différence, en fait, qui oppose les académiciens, c'était de savoir s'il fallait aussi mesurer une ligne parallèle à l'équateur, qui se révèle impossible à faire en l'état. Et c'est le cœur de la querelle scientifique entre Gaudin et les deux autres académiciens que sont Lacondamine et Bouguer.
Alors finalement, on a un peu l'impression, en lisant son texte, que Lacondamine, pour justifier sa présence sur place, va se chercher d'autres buts scientifiques que l'objectif qui leur était imposé au départ, et se lancer dans d'autres aventures. Et c'est ainsi qu'il part cartographier l'Amazone, un fleuve particulièrement complexe avec ses nombreux méandres. Et là aussi, il va chercher à avoir cette connaissance du territoire.
Oui, Lacondamine a une sorte de d'éthique scientifique assez chevillée au corps, où il considère que puisqu'il est déjà en Amérique du Sud, autant mettre à profit sa présence et ses instruments et sa connaissance pour augmenter en fait la connaissance de ce territoire. Et donc il choisit de ne pas rentrer par le chemin facile, qui est de rentrer par Carthagène des Indes et de s'embarquer directement pour l'Europe, mais de naviguer sur le fleuve Amazone pour en proposer une cartographie beaucoup plus fiable que celle qui avait été proposée jusqu'alors, notamment par des religieux en mission.
Il y a une part vraiment d'aventure dans ce récit qui ne doit pas faire oublier les enjeux scientifiques, mais le savant se met lui-même en scène pour montrer à quel prix il arrive à faire progresser les connaissances.
Oui, alors le récit de voyage de la descente de l'Amazone, c'est sans doute le texte le plus curieux, le texte où Lacondamine se met davantage en scène comme un aventurier. Je ne l'ai pas dit, mais je précise que quand Lacondamine rentre en France, comme cette question de la figure de la Terre est déjà réglée, il choisit de ne pas rendre compte à l'Académie des sciences de son travail de géodésie, mais de raconter sa descente de l'Amazone, pensant peut-être que ce récit intéresserait davantage à la fois à l'intérieur de l'Académie des sciences, mais surtout à l'extérieur de l'Académie des sciences. Il faut savoir que l'Amérique du Sud au XVIIIe siècle, c'est un territoire dont on connaît les contours, mais dont on connaît très peu l'intérieur, et surtout en France, puisque l'Espagne a une politique de protection de ce territoire, où elle ne laisse quasiment pas rentrer d'autres personnes qui ne sont pas espagnoles. C'est-à-dire que de l'Amérique du Sud, on connaît les ports, on connaît Buenos Aires, on connaît Valparaiso, on connaît Lima, mais à part ça, pas grand-chose. La spécificité de cette expédition, c'est au contraire de pouvoir rentrer le plus possible dans les terres de l'Amérique du Sud. Et donc Lacondamine prend le parti d'aller jusqu'au bout pour présenter au public sa traversée d'un espace qui n'est quasiment pas connu des Français à cette époque-là, ou seulement par quelques petits récits de voyage, ça et là, de missionnaires, mais qui est quasiment comme un espace inédit. Et dans ce texte de la descente de l'Amazone, il se met en scène véritablement aux prises avec cet espace complètement hostile, complètement labyrinthique, où il risque sa vie quasiment à chaque endroit. Surtout que c'est un espace qui permet aussi de décrire par le menu des plantes ou des animaux qui là font verser le récit dans le domaine de la curiosité.
Et c'est justement intéressant parce que Lacondamine cherche à toucher des publics très différents, autant un public de savants, un public scientifique, et puis un public plus large de curieux qui peuvent être intéressés par l'aspect plus exotique de ces descriptions.
Oui, tout à fait. Quand Lacondamine rentre en 1745, il a le privilège de prononcer son discours, prononcer son récit de voyage le long de l'Amazone, face à une assemblée qui n'est pas seulement composée d'académiciens, mais qui est ouverte à un public plus large. L'Académie des sciences s'ouvrait chaque printemps à un public parisien, mondain, noble ou non, masculin et féminin, qui allait entendre en fait la crème de la crème des académiciens et des travaux scientifiques en cours. Et donc Lacondamine utilise en fait cette porte ouverte sur le monde extérieur pour tirer parti en fait de cet intérêt pour les espaces exotiques et pour l'aventure dans un espace tropical qui est rempli d'animaux complètement inconnus ou bizarres, étranges, où il arrive des choses parfois difficile à comprendre quand on est européen. Enfin, des paysages qui sont complètement inédits, un rapport aux indigènes qui parle beaucoup à l'imaginaire des personnes du XVIIIe siècle.
On peut parler d'une véritable opération de communication à son retour, parce qu'il y a deux temps, le temps du voyage et puis le temps du retour qui met le voyage en récit et qui est vraiment organisé avec une forme de stratégie, on pourrait dire. Et en ce sens, il a un prédécesseur qui est Maupertuis, qui lui-même avait particulièrement réussi son retour de Laponie.
Oui, Maupertuis avait réussi une véritable campagne de communication, au point de se faire peindre, aplatissant le pôle nord de la paume de la main, et en insérant dans son récit un certain nombre de gravures, le représentant habillé en lapon, c'est-à-dire en fourrure, sur un traîneau porté par des rennes. Et la Condamine fait un peu la même chose, donc il ne va pas jusqu'à se faire tirer le portrait, mais il insère dans ses textes un certain nombre de gravures qui le mettent en scène et qui permettent en fait de visualiser cet espace tantôt montagneux, tantôt tropical, le stéréotype de la nature tropicale tel qu'on peut se le représenter. Et en insérant, notamment même dans la publication académique, une représentation de soi, notamment sur son radeau au milieu de l'Amazone, en train de calculer des mesures géographiques tout en étant au milieu d'une nature complètement exubérante.
Quand on le lit, il passe d'ailleurs son temps à prendre des mesures, à faire des calculs. Il est sur un cours d'eau, il va mesurer la profondeur de la rivière, sa largeur. Il va créer un nouveau triangle, comme il l'appelle, pour cartographier les lieux. C'est vraiment son activité permanente.
Oui, alors comme je le disais, la Condamine a une sorte d'éthique scientifique assez poussée. Et ce qui revient toujours dans ses textes, c'est l'idée qu'il faut travailler. Il est ici en travail, il est ici en mission scientifique. Et la mission scientifique ne s'arrête pas avec la fin des objectifs de géodésie. Et il faut montrer qu'il a passé tout son temps à travailler. Et ça vaut pour le journal de voyage. Le journal rend compte de cette expédition. Et donc, c'est pour ça que c'est un texte qui est chronologique. Il montre tout le temps qu'il a passé à travailler. Et il montre en fait que l'intégralité de son temps passé loin de la France, qui pourrait prêter à des hypothèses, en gros, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps, qu'est-ce qu'il a retenu. Donc, pour couper court un peu à toutes les rumeurs qui pouvaient circuler et qui pourraient un peu entacher sa rigueur scientifique, il écrit pour montrer qu'il a bien passé tout son temps à travailler.
C'est donc un récit scientifique, un récit de voyage, vous l'avez dit également. Et même dans sa façon de voyager, on perçoit cette rigueur, justement. Par exemple, dans la façon dont il aborde certains « mythes », entre guillemets, est-ce que l'Eldorado existe? Est-ce que les Amazones existent? Et là, on retrouve vraiment cet esprit des Lumières qui veut faire la part entre la raison et les croyances.
Oui, tout à fait. La Condamine, donc, il entre dans un espace légendaire, qui est celui de l'Amazonie, qui a vu s'agréger tout au long des siècles, à partir du XVIe siècle, un certain nombre de mythes ou de croyances. Et il cherche dans son récit de voyage à proposer une lecture raisonnée, non seulement de ces espaces, mais aussi la manière à travers laquelle les mythes peuvent se créer. Alors c'est très clair pour l'Eldorado, puisqu'il dit clairement que cet espace n'a jamais été vu, et que lui non plus ne l'a pas vu, qu'il a balisé l'Amazonie sans en trouver la trace. Et donc, il décide donc d'enterrer définitivement ce mythe. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi montrer en quoi, pourquoi ce genre de mythe peut exister et qu'est-ce qui a rendu possible l'émergence de ce mythe. Et donc, ça passe par l'avidité des Européens qui sont les premiers arrivés en Amazonie. Ça passe par la situation géographique du lieu. Ça passe, par exemple, par les mensonges de certains peuples indigènes pour égarer les Européens. Et pour les Amazones, là, c'est un peu différent, puisqu'on pourrait se dire que finalement, après avoir lu sa démythification de l'Eldorado, il ferait la même chose avec les Amazones, c'est-à-dire démythifier complètement. Mais là, il choisit en revanche de ne pas complètement évacuer la possibilité que les Amazones aient pu exister. Alors, il dit clairement qu'il n'en a pas vu, qu'elles n'existent peut-être pas à l'époque où il est, mais que, vu la situation géographique de l'Amazonie, ce côté un peu de méandre, ces bois impraticables, inaccessibles, il n'est pas invraisemblable qu'un groupe de femmes, excédées par leur semi-esclavage ou par leur situation, auraient fait sécession de certaines communautés et auraient créé un groupe de femmes vivant de manière autonome. Ce qui, par ailleurs, ça, la condamine ne le dit pas, mais on peut aussi le penser, c'est ce qui se passe au XVIIIe siècle avec certains esclaves, les esclaves marrons en Amazonie, qui font sécession et qui créent des communautés autonomes au milieu de l'Amazonie. Donc la condamine, il a cette vision un peu tempérée, modérée, qui est propre à l'esprit des Lumières, à l'esprit un peu fontenellien, de systématiquement faire la part des choses et de regarder ce qui est vraisemblable, ce qui ne l'est pas, pourquoi ce n'est pas vraisemblable et pourquoi on peut douter ou pourquoi on peut aussi suspendre le jugement.
Quel est son regard sur les populations locales qui sont très, très diverses au XVIIIe siècle ?
Alors la condamine, c'est quasiment un anti-Montaigne. Il a une vision extrêmement négative, extrêmement dépréciative de ceux qu'il appelle les Indiens, donc les indigènes d'Amérique du Sud, qu'ils soient, entre guillemets, en sauvagerie, c'est le terme qu'il emploie, qu'ils soient dans des missions religieuses ou qu'ils soient en ville, au Pérou, à Quito, par exemple. Il a des mots très durs où il décrit un avilissement, un abrutissement naturel de ces populations. Il explique par exemple que ce sont des peuples qui sont incapables d'abstraction, incapables d'avoir un esprit complexe, et ça il le justifie par leur vocabulaire, en disant par exemple que leur arithmétique ne va pas au-delà de 3. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément un point de vue qui est partagé au XVIIIe siècle. C'est vraiment sans doute un biais de la condamine qui a une lecture entièrement négative de ces peuples. Bouguer, son compagnon de voyage, qui écrit aussi à son retour en France, lui fait montre de beaucoup plus d'empathie envers les indigènes qu'il croise à Quito ou en Équateur, en soulignant que c'est leur situation de quasi-esclavage qu'on trouve, enfin, opéré par l'administration coloniale, qui les avilit, et que ce n'est pas une situation, un état de nature.
Alors, le premier texte à être publié, c'est ce voyage tout au long de l'Amazone, et le deuxième, c'est un journal qui revient sur l'expédition du Pérou. Pourquoi est-ce que la condamine a besoin de revenir sur cet épisode et de livrer sa propre version des faits ?
La condamine donc commence par le voyage sur l'Amazone, comme je l'ai évoqué, et ce qui se passe, c'est une énième querelle d'académiciens, puisque la condamine rentre en dernier. Bouguer est déjà rentré un an avant lui, et Bouguer s'est empressé à son retour de présenter ses résultats de mesure. Et il les présente comme si ces mesures étaient le résultat de toute la compagnie partie en voyage. La condamine rentre furieux et ne comprend pas pourquoi son ancien collègue ne l'a pas intégré ou ne l'a pas consulté pour qu'ils harmonisent leurs résultats. Puisque ces résultats sont légèrement différents, il n'y a rien qui puisse invalider les conclusions de l'expédition, mais la condamine, parce que c'est son caractère, parce qu'il a un tempérament assez vif, rentre en querelle avec son ancien collègue, et cette querelle jette un peu le doute sur la rigueur des mesures qui ont été faites pendant cette expédition. Et donc la condamine choisit, 6 ans plus tard, après avoir bien mis au propre son journal de voyage et ses tables de mesures, en s'étant querellé avec Bouguer par publication interposée quelques fois avant, là, il décide de délivrer sa version du voyage pour montrer en fait, tout le bien fondé de cette expédition et aussi sa bonne foi.
Et quelle va être la réception de ce texte ?
Alors, ce texte est très bien reçu. Le récit de voyage sur l'Amazone a des comptes rendus très élogieux dans la presse, surtout pour sa dimension curieuse, plaisante, exotique. Et pour le journal de voyage, ce qui frappe, c'est la rigueur et c'est cette éthique scientifique toujours à l'œuvre qui permet de jeter un regard positif à la fois sur l'expédition, sur les travaux scientifiques et aussi sur l'homme qui les porte, les deux étant systématiquement liés.
Alors, la Condamine est un savant aux multiples facettes. Il va poursuivre son activité, notamment dans la définition du maître, par exemple, ou alors sur certaines expériences de vaccination, si on peut s'exprimer ainsi. Quelle est la place du voyage en Amérique dans sa carrière et quelle va être l'influence peut-être pour ses travaux futurs ?
Alors, le voyage en Amérique, c'est le sommet de sa carrière scientifique. C'est un peu paradoxal puisque c'est un moment où il est absent, donc il ne peut, entre guillemets, pas faire carrière en France. Mais c'est ce pourquoi il est connu. Et c'est ce qui va véritablement forger son image auprès du public français. Alors, le voyage en Amérique, ce n'est pas son premier voyage. Il avait fait un peu ses armes autour de la Méditerranée jusqu'à Jérusalem. Et de retour en France, il essaie de rattraper un peu le temps et pour rattraper un peu cette carrière qu'il a dû mettre entre parenthèses pendant 10 ans. C'est le moment où il s'insère dans des débats scientifiques sur la détermination d'une mesure universelle qui deviendra le maître, sur l'inoculation, une sorte de proto-vaccination de la variole. Et il mène aussi une carrière plus traditionnelle, il entre à l'Académie française. Et son dernier voyage, c'est un voyage en Italie, qui là est davantage un voyage de plaisance, on pourrait dire. On est loin du voyage scientifique, qui est plutôt aussi un voyage de lettré, qui est très courant au XVIIIe siècle, d'aller en Italie voir les ruines latines, notamment. Mais le voyage en Amérique du Sud, c'est ce qui lance sa carrière et en même temps il n'ira jamais plus loin dans sa carrière d'homme de science.
Pour un lecteur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces textes que vous nous offrez ?
Alors, ce qu'on peut trouver, alors ça, tout dépend de ce qu'on cherche, j'ai envie de dire. Alors, je peux vous dire ce qu'on ne trouvera pas, mais ça peut être aussi intéressant. On ne trouvera pas cette idée d'un écrivain voyageur. Ça, c'est une figure qui apparaît au XIXe siècle avec Lamartine, Chateaubriand. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental de l'époque moderne, du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, c'est que les voyageurs ne sont pas des écrivains. Donc, ils ne se revendiquent pas écrivains. Il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de recherche philosophique ou pseudo-philosophique ou poétique. Même si on peut, à certains endroits, trouver certains passages qui sont un peu comme des bijoux dans ce texte. En revanche, on peut trouver un intérêt pour cette question de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire raconter la vérité sur un voyage ? Qu'est-ce qu'un voyage vraisemblable ? Qu'est-ce qu'une aventure scientifique ? Et comment on peut raconter une aventure scientifique ? Et aussi comment on peut raconter une aventure scientifique en étant fidèle à la vérité, en ayant comme point cardinal la vraisemblance et la vérité. C'est une lecture assez engageante, enfin, c'est une lecture qui demande une certaine rigueur, puisque ce ne sont pas des textes qui se donnent d'eux-mêmes, il faut les travailler un peu. Mais on peut trouver par endroits des anecdotes ou une véritable aventure qui permet de se représenter un peu ce que pouvait être la vie de ces Français dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans une ville comme Quito. Donc ça, ça vaut plutôt pour le journal de voyage. Pour la relation de voyage sur l'Amazone, là, on peut trouver quasiment en germe tous les ingrédients du récit d'aventure. Le fleuve, les animaux, les indigènes, l'aventure au péril de sa vie. Et là, c'est vraiment en germe, et ça se développera considérablement au 19e, au 20e. J'ai envie de dire, la relation de voyage En Amazon, si on a Tintin en tête, c'est quasiment ça. C'est Tintin au XVIIIe siècle.
Eh bien, un grand merci Mathias Soubise. Je rappelle donc ce beau livre qui a été publié en 2021 aux éditions des Belles Lettres. Il s'appelle donc « Voyage en Amérique » et il rassemble plusieurs textes de la Condamine et puis deux autres lettres. Voilà, c'est un très beau livre avec aussi des illustrations, des gravures et des cartes, bien sûr. À très bientôt.
Merci. Thank you.